Le bonheur en musique, Edith Walter.
Bonjour chers amis auditeurs. Aujourd'hui le bonheur, eh bien on va l'avoir grâce à Brahms, Chopin, Schumann, sous les doigts d'un pianiste que je ne connais pas tellement et que je vais découvrir avec vous, Ali Iresh. On l'écoute tout de suite dans une étude, ça fait partie de l'opus 10, l'étude de Chopin, et c'est la numéro 10 de Chopin que nous écoutons, interprétée bien sûr par Ali Iresh. C'était extrait de l'opus 10, l'étude numéro 10 de Chopin, interprétée par Ali Iresh. Voilà, Ali Iresh, alors on a le temps de cette émission pour vous découvrir la biographie, c'est pas si mal, que vous nous racontiez quel est votre parcours. J'ai lu quelque part que vous avez déjà, dès l'enfance, était attiré par plusieurs instruments. C'est un cas que je ne rencontre pas souvent.
Oui, c'est vrai. Pendant ma formation musicale, les premières années, j'étais passionné. Je voulais à la base devenir compositeur.
C'est voilà. Pas mal.
Et donc, alors pas dès le départ, mais vers les 10 ans, 12 ans, comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai fréquenté, mais bon, de façon assez brève, hein, il faut le dire, plusieurs instruments. Donc, j'ai eu la chance, par exemple, d'être une année dans la classe de clavecin de notre regrettée Blandine Verlet. Et voilà,
qui m'a connu,
je devais avoir 11 ans à l'époque, si ma mémoire est bonne. Et voilà, j'ai aussi fréquenté la classe de Monsieur Katarzynski, donc de trombone, qui était donc premier trombone à l'Opéra de Paris.
Ah ouais, c'est vraiment étonnant, le parcours.
Et puis, bon, ceci dit, j'ai commencé avec le piano et je n'ai jamais cessé de faire principalement du piano.
Mais Ali, alors, vos parents étaient musiciens ?
Mélomanes. Mélomane, pas musicien.
Parfois, c'est plus important parce qu'ils sont parfois plus touchés par la musique, plus engagés que les vrais professionnels.
Absolument. D'ailleurs, j'ai des collègues qui ont des enfants et qui
ça marche pas.
Ne sont pas du tout forcément intéressés par le fait que voilà, leurs enfants suivent leur voie ou même fréquentent un instrument.
Vos parents sont mélomanes et ils se rendent compte que très jeunes. Vous avez une passion pour la musique, vous voulez devenir compositeur et vous allez commencer avec des instruments différents. C'est vraiment étonnant et j'imagine que ça a dû élargir tout de suite votre champ musical, c'est-à-dire tout de suite votre maturité musicale.
Disons que ça a eu, comme vous dites, cet effet, effectivement, mais plus sur le moyen terme, évidemment, qu'au début. Voilà, au bout de quelques années, c'est quelque chose qui, bien sûr, m'a beaucoup aidé. Et comme vous le souligniez tout à l'heure, eh bien, c'est vrai que c'est un peu atypique comme parcours par rapport à d'autres de mes collègues pianistes.
Alors, vous allez vous consacrer quand même complètement au piano relativement tardivement, c'est-à-dire 13 ans, 14
c'est
ans.
Ça. Oui, en fait, vers les 12-13 ans, voilà, j'ai vraiment commencé sérieusement
à vous consacrer au piano.
À me consacrer au piano et progressivement d'ailleurs abandonner les autres instruments.
Mais vous avez reçu de Dieu une facilité digitale complètement remarquable parce que. Beaucoup de pianistes commencent beaucoup plus tôt et pourtant vous avez une superbe technique.
Oui, bah, je jouais quand même avant. Donc l'important, il y a un aspect où bon, j'ai commencé à 6 ans, donc même sans travailler très intensément, j'ai pu me familiariser et ma main a pu grandir avec l'instrument. Donc ça, c'est important. Voilà.
Alors, j'ai eu la joie de recevoir ces disques, c'est-à-dire consacrés à Brahms, Chopin, Schumann, trois grands romantiques. Ça illustre votre goût particulièrement ?
Oui, alors certainement, je fréquente beaucoup les romantiques. J'ai aussi d'autres auteurs à mon répertoire et aussi dans ma discographie, car j'avais enregistré un CD dédié à Frédéric Mompou, Manuel de Falla et Antonio Ruiz Pipo, que je n'ai pas personnellement, et donc évidemment, on peut le trouver, c'est pour la maison de disques Genuin, mais n'étant pas, disons, la maison de disques étant allemande, voilà, il est difficile à trouver. Mais... Enfin, quoique aujourd'hui, avec Internet, c'est très facile.
Ali, alors, ces trois disques sont enregistrés pour le même éditeur, ceux que j'ai là dans la main.
Disons que le Chopin et le Schumann sont effectivement enregistrés pour le même éditeur, Bion Records.
Bion Records.
Absolument, Bion Records. Voilà, et le premier...
Une maison d'édition française ?
Qui est une maison d'édition française, dont le responsable est d'ailleurs Aurélien Sabouret, qui est lui-même musicien, violoncelle solo, donc à l'Opéra de Paris. Et donc nous sommes...
La famille Sabouret est musicienne.
Absolument. C'est donc le fils... Tu regrettais violoniste.
Bien sûr. Enfin, je l'ai supposé immédiatement. Donc, et c'est très joli comme couverture. Non seulement la musique qui est dedans et qui est bien interprétée est un bonheur, mais c'est particulièrement joli. Vous avez eu une influence sur cette présentation qui est tellement jolie, tellement élégante.
Alors, je dois avouer que non. C'est vraiment donc c'est une amie qui est aussi sculptrice et architecte, et je lui avais demandé de concevoir donc la couverture du disque, et effectivement elle est vraiment magnifique.
Ah oui, elle est magnifique, avec des tonalités chez Gilles Chopin, avec des tonalités des teintes étonnantes, originales et tellement réussies. Vous allez nous parler un peu de ces études, de l'opus 10, cet opus 10 dédié à Liszt. C'est étonnant d'ailleurs cette amitié entre Chopin et Liszt, de ces deux compositeurs qui ont en commun beaucoup et en même temps sont si différents.
Absolument. Ce sont les deux princes du piano au 19e siècle.
Deux géants
de l'instrument piano, oui, d'abord. Et puis, on peut rappeler à nos auditeurs donc, que Chopin n'a jamais composé pour ni dans le répertoire symphonique.
Il y a que les concertos pour orchestre.
Voilà.
Où il sort, il y a une jolie formule qui dit que ça a été son berceau et son tombeau, le piano.
Oui.
C'est un être complètement enfermé et qui s'exprimait essentiellement sur son piano.
Absolument.
Ce qui n'est pas du tout le cas de Liszt. Mais enfin, on parle de
Chopin. Beaucoup plus extraverti.
Oui. C'est l'opposé. L'un est complètement introverti et l'autre complètement extraverti. Et dites-nous, ces études de Chopin, elles sont quand même diaboliques à enregistrer, à jouer.
C'est une œuvre, certainement, disons que pour beaucoup de pianistes, ça représente un défi. Alors, c'est un défi, pour moi, d'abord musical et poétique. Parce que la difficulté de ces études est, bien sûr, mécanique, mais d'abord, la difficulté est de pouvoir créer les sonorités qui étaient demandées par Chopin. Ce sont des études qui sont jouées, rejouées et enregistrées déjà par beaucoup d'illustres prédécesseurs. Voilà. Et finalement, alors tous les plus grands, mais il faudrait quand même peut-être préciser que certains immenses pianistes n'ont jamais souhaité les enregistrer, justement, ou les jouer en tout cas, comme dans le corpus intégral, c'est-à-dire l'opus 10 et l'opus 25. On peut penser à Arthur Rubinstein, Vladimir Horowitz, qui sont a priori quand même deux géants du XXe siècle en tant que pianistes.
Et qui Abdel Rahman El Bacha a enregistré l'intégralité des œuvres de Chopin. On trouve vraiment tout. Vraiment. Enfin, c'est quand même une performance d'être capable d'enregistrer toutes ces études. Je vous propose que l'on écoute toujours de l'opus 10, le numéro 11 et le numéro 12 de ces études de Chopin, jouées par Ali Iresh.
Thank you.
C'était extrait de, des études d'opus 10 de Chopin, le numéro 11 et le numéro 12, interprété par Ali Iresh. Ali Iresh, qui est dans notre studio et qui nous a apporté ses derniers 10 consacrés à Chopin, celui dont vous avez déjà entendu, et Schumann. Schumann, alors vous parlez beaucoup de Schumann, Ali. Schumann, c'est son destin extraordinaire, c'est son œuvre. Dites-nous pourquoi on aime tous, on reconnaît tous que Schumann est un génie, mais c'est toujours intéressant de savoir ce que chacun trouve dans dans son œuvre et dans son être.
Vous savez, beaucoup d'affinités restent mystérieuses.
Hein. C'est juste.
On peut rarement les expliquer intégralement. Mais je pourrais dire, concernant Schumann, que son monde intérieur, si riche, si fantastique, si coloré, passionné,
tourmenté,
me plaît beaucoup depuis toujours. Et les deux œuvres enregistrées donc sur ce CD Schumann,
c'est-à-dire les Davidsbündler de l'opus 6, les Christian Arianna de l'opus 16.
Absolument, sont parmi, à mon avis, les sommets de ces compositions en termes de réussite esthétique et d'écriture musicale.
Est-ce que vous aimez programmer dans vos concerts les mêmes œuvres que celles que vous enregistrez ? En général, c'est le cas ?
Absolument. D'autant que, avant d'enregistrer, je joue toujours beaucoup en concert les œuvres que je souhaite enregistrer.
Pour les maîtriser complètement ?
Oui, pour les fréquenter, pour qu'elles mûrissent. Et puis, même quand j'enregistre, pour moi, l'enregistrement vient toujours du contact aussi avec le public. Voilà, même si on est seul, quand on enregistre, on a le micro, mais il y a quand même, en fait, dans le travail qui a précédé l'enregistrement, le public qui vous porte et qui vous aide dans votre parcours.
Ali, est-ce que vous estimez que un pianiste, un compositeur vous a marqué particulièrement dans ce que vous êtes aujourd'hui, j'entends en tant que professeur?
J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de professeurs très très compétents. Écoutez, je pourrais en citer trois, mais sans oublier ceux que je ne vais pas citer.
Oui, bien sûr.
Voilà. Je dirais bien sûr Antonio Ruiz Pippo, qui m'a quand même vraiment, véritablement initié au piano. Lev Naumov, qui n'est plus de ce monde et qui était donc l'assistant, qui avait été l'assistant de Heinrich Neuhaus à Moscou, absolument, et avec lequel j'ai pu travailler pendant quelques années. Et je dois avouer que plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il a pas mal façonné ma personnalité musicale. En tout cas, il a été capable de déclencher quelque chose qui m'a libéré. Et puis, je pense à des masterclass auxquelles j'ai participé avec un pianiste qui n'est pas forcément, peut-être pas tous les auditeurs de Radio Notre-Dame le connaissent, mais qui s'appelle Alexander Lonkwitz, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, surtout avec le temps, plus que sur le moment. Mais le répertoire, notamment je pense à Schubert, même à Debussy, Ravel, voilà, encore aujourd'hui, avec les années, lorsque je travaille, me viennent parfois à l'esprit des remarques qu'il avait faites sur tel ou tel détail, ou telle ou telle harmonie. Voilà, ça a été pour moi des expériences très enrichissantes.
Je propose que l'on écoute un extrait des Chryslériana. Bon, j'ai longuement hésité entre les Davis Bündler et les Chryslériana. Ce sont des œuvres, beaucoup d'œuvres de Schumann pour le piano se font avant qu'il puisse épouser Clara. Et c'est souvent particulièrement passionné, tourmenté et d'une richesse incroyable. C'est étonnant de voir quelle maturité il a, ce Schumann, avant ses 30 ans. C'est fou.
Oui, il faut dire aussi que c'était le cas de beaucoup de ses collègues compositeurs qui l'ont précédé ou qui lui ont succédé. Je pense que peut-être à cette époque, il suffit de citer Mozart qui est mort bien avant ses 40 ans. Oui. On a du mal aujourd'hui à imaginer une telle
maturité. C'est évident. C'est d'ailleurs tout un sujet absolument passionnant. Je ne sais pas si ça a jamais été traité. C'est comment peut-on expliquer la différence de maturité aujourd'hui de tous les êtres qui habitent sur la Terre, mais particulièrement des compositeurs? Comment se fait-il que des gens, que ce soit Schubert, que ce soit Mozart, que ce soit Chopin, qui vraiment à 20 ans ont une maturité qu'on ne connaît peut-être pas aujourd'hui, à 35 ans ou à 40 ans, c'est quand même un rapport au temps sûrement différent. Enfin, c'était un très très vaste sujet et qui n'est pas encore complètement exploré. Ce que je propose, Ali, c'est que nous écoutions un extrait des Chryslériana de Schumann que vous interprétez, et ce CD a été enregistré avec dans la même édition.
Oui, chez Bion Record, absolument. Donc toujours comme les études de Chopin.
On vous écoute interpréter Schumann. Thank you. C'était un extrait des Chrysleriana, opus 16 de Schumann, interprété par Ali Iresh. Ali, est-ce que vous trouvez que être pianiste aujourd'hui, vous êtes vraiment, on peut dire, encore très jeune, est-ce que vous trouvez que c'est particulièrement difficile avec toute l'Asie qui déferle, avec le nombre de pianistes concurrents qui sont de plus en plus nombreux, est-ce que vous trouvez que de toute façon vous suivez la voie que vous avez envie de suivre et que vous ne trouvez pas que c'est particulièrement difficile?
Ben, je répondrai par la deuxième partie de votre remarque. Donc je pense que en fait, quand on a toutes les voies qui sont privilégiées, à mon sens, être musicien est un privilège et
oui,
un honneur.
Absolument.
Donc évidemment, sont très demandeuses en termes de rigueur, de travail, de discipline. Et donc moi, j'essaye de... Je me dis que oui, vous parliez des pianistes qui arrivent d'Asie, mais bon, tout ça, c'est au fond,
d'Asie,
c'est très...
et d'Europe et
d'ailleurs
et de partout.
Hein, oui, mais disons que l'Asie, je pense notamment à la Chine populaire, c'est ce qu'il y a de plus récent, on va
oui,
dire,
c'est
comme
juste, c'est
arrivé
juste.
D'un point de vue. Et donc,
et puis le nombre est considérable.
Le nombre est considérable, mais c'est une bonne nouvelle au fond pour la musique.
Bien sûr. Bien
voilà,
sûr.
Donc il faut
bien
le
sûr.
Prendre comme ça. De tout temps, de toute façon, les interprètes ont eu des difficultés qui étaient propres à leur époque. Voilà, imaginez
oui,
les tournées d'Horowitz au début, dans les années 30, avec les trains, les bateaux, les voilà. Moi, je pense, je reste optimiste et je suis même vraiment enchanté que de plus en plus d'êtres humains décident de suivre cette voie musicale.
Alors, deux questions. La première concernant votre attrait pour des instruments différents et votre désir d'enfant à être compositeur. Est-ce que vous estimez que vous avez choisi quand même la meilleure voie pour exprimer votre sensibilité de musicien avec le piano, ou est-ce que vous êtes nostalgique du trombone ou du clavecin ou de la direction d'orchestre ou de la composition que vous créez peut-être?
Alors j'ai un petit scoop. C'est ma dernière émission donc en tant que pianiste, puisque je vais me mettre à la batterie. Non, je plaisante. Je pense que pour moi, aujourd'hui, si vraiment je dois regarder les
passé.
Années qui se sont écoulées, indiscutablement, le piano m'a beaucoup, beaucoup apporté, beaucoup donné, et j'en suis vraiment
ravi. C'est un instrument complet. C'est un instrument complet qui a une littérature...
Absolument, seulement inférieur au répertoire symphonique, à la limite, mais point de vue instrumental et encore. C'est vraiment le roi des instruments. Et d'ailleurs, c'est un peu le défi, un des défis majeurs du pianiste qui doit en fait, qui a la possibilité en fait de recréer un orchestre avec son clavier, voilà, chose que ne peut faire aucun autre instrument.
Absolument. Ali, est-ce que vous aimez transmettre, est-ce que vous aimez avoir des élèves?
Absolument, j'ai un groupe d'élèves à Paris, d'élèves privés, et qui m'ont eux aussi beaucoup donné, puisque transmettre vous oblige à vous poser des questions que vous ne vous seriez pas forcément posées sans être dans une situation de professeur à élève. Et donc mes élèves sont des élèves d'ailleurs le plus souvent amateurs, ce qui en fait m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et par rapport à l'approche instrumentale, physique, et par rapport à l'écoute, je suis toujours très heureux quand, ce qui est le cas très souvent, les défis qu'ils se posent sont sont souvent des succès avec bien sûr du travail et un peu de temps.
Alors on va parler de Brahms parce qu'on va terminer cette émission en écoutant vos variations de Brahms. Parlez-nous de ce disque que vous avez réalisé.
Alors, ce disque a été, c'est mon premier enregistrement en fait officiel, qui avait été, ça remonte donc maintenant en 2008, qui était sorti sous le label Intégral, voilà.
Un catalogue magnifique.
Un très joli catalogue. Je crois que cette maison de disques n'existe plus aujourd'hui, hélas.
Elle n'est pas la seule à avoir disparu, mais elle fait partie des maisons qui ont disparu.
Absolument. Et donc, on va revenir encore une fois quand même aussi à Schumann, puisque j'avais enregistré donc ces variations de Brahms, avec bien sûr les Brahms Paganini que je jouais très régulièrement et beaucoup à cette époque, ainsi que les variations sur thème original et les variations donc sur thème de Schumann. Voilà. Donc en quelque sorte, je boucle un peu la boucle avec ce disque Schumann. Voilà, j'ai commencé avec les variations de Brahms sur un thème de Schumann et mon dernier enregistrement donc est consacré à Schumann lui-même.
C'est vous qui avez choisi ce programme à enregistrer de variations?
Absolument, j'ai toujours choisi mes programmes puisque c'est quand même une grande responsabilité d'enregistrer et il faut être certain de pouvoir donner tout ce qu'on peut donner.
Et puis aimer.
Et bien sûr aimer.
Oui.
Mais bon, comme nous le disions auparavant, le répertoire pianistique est tellement riche que on a bien peu de choses à ne pas aimer. On peut même regretter qu'une seule vie ne suffise pas.
Dites-moi, est-ce que vous, chez qui vous avez enregistré? Chez Intégral, mais puisqu'Intégral n'existe plus, c'est diffusé par qui maintenant?
Alors, le disque a été...
il est maintenu, je crois.
Il est maintenu, mais surtout, non, il a été réédité par un label italien qui s'appelle Da Vinci. Et il est ressorti donc l'année dernière, si ma mémoire est bonne, sous le label Da Vinci.
J'étais sûr que ça avait eu une vie prolongée.
Absolument.
Ces variations de Brahms. Parlez-nous, est-ce que vous les trouvez très différentes, ces variations, les unes avec les autres?
Absolument. Disons que déjà, si vous voulez, les Brahms Paganini occupent quand même une place particulière par rapport à toutes les œuvres pianistiques de Brahms. Sauf peut-être les quelques études qu'il a transcrites et les exercices aussi qu'il avait composés, puisque comme tous les compositeurs pour piano du 19e siècle, Brahms s'est mesuré lui aussi à cette figure un peu démoniaque qu'était Paganini, enfin démoniaque dans le sens où sa virtuosité était surnaturelle
diabolique.
Et diabolique. Et donc ces variations de Paganini sont assez marquées puisqu'elles expriment bien sûr le pianisme de Brahms, qui reste toujours lui-même bien sûr, mais en étant structuré par ce thème, célèbre thème de Paganini. Les autres variations, disons, sont assez différentes. Les premières qu'il a composées, donc, sont celles sur le thème de Schumann. Elles ont un aspect très douloureux et même parfois funèbre, je dirais. Et puis nous avons celles sur un thème original qui sont hélas pas souvent jouées, et où là on sent à travers donc ce thème qui est donc de Brahms lui-même un grand travail sur la figure de Beethoven et de ses variations.
D'après vos propos, je pense qu'il faut choisir un extrait des variations sur un thème de Paganini de l'opus 35. On écoute donc Brahms. C'était les variations sur un thème de Paganini, opus 35. Et c'est Ali Iresh qui en était l'interprète. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver longtemps en podcast sur vos ordinateurs, vos iPhones et tous vos instruments. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.